Creation on Air.
Bonsoir. Cette nuit, Claustrophobes s'abstenir, car Marie-Hélène Bernard, Nathalie Battus et Alain Joubert nous font partager une plongée dans un labyrinthe physique et sonore au cœur du massif de l'Aigoile. Le 27 juin 1888, le village de Camprieu vit arriver des calèches, lourdement chargées de matériel, conduites par un certain Édouard Martel, avocat parisien, passionné par l'univers des grottes. Entouré des membres de son équipe, celui-ci était bien décidé à percer les mystères de la rivière souterraine qui coulait là. Sous le regard incrédule des paysans, que l'intrépide découvreur qualifie en homme du 19e siècle de bons indigènes, et après une première tentative infructueuse menée du bas, Martel réussit l'exploit de la traversée en partant du Causse. Ce qui fait aujourd'hui figure d'acte de naissance de la spéléologie française fut consigné immédiatement par procès-verbal à la mairie de Camprieu. Édouard Martel a décrit ensuite la lente avancée dans le noir, les doigts écorchés le long des parois, les grosses bougies soufflées par de violents courants d'air, la nage forcée et les jets de magnésium pour sonder un court instant la galerie. Ce qui a frappé Marie-Hélène Bernard dans son récit est l'importance des sons. Il évoque l'obscurité épaisse et bruyante, les voix étouffées par le mugissement de l'eau, la résonance des parois. Il exprime aussi le bonheur des ténèbres procuré par le mystère de la caverne, les frissons face au danger de l'exploration et la joie de triompher des difficultés. L'abîme de Bramabio est donc notre destination cette nuit. Dans l'ombre d'Édouard Martel, mais aussi de Vidal, dit « Latrouche », disparu dans la perte du bonheur, sans qu'on sache s'il s'était agi d'un suicide ou d'un accident au fond du grand précipice de Bramabio, nous voici non loin de la rivière souterraine, en compagnie de spéléologues et de nos rêves.
Dans le département du Gard, à 8 km sud-est de Merueil, Lozère, le plateau de Camprieu, 1100 à 1130 mètres d'altitude, représente le fond d'un ancien lac dont le ruisseau du Bonheur traverse aujourd'hui le bassin desséché.
C'est que ces rochers là,
c'est du granit.
Ici on est juste à la limite des granites. À 3 mètres ici, vous avez les granites.
C'est à cet endroit que le Bonheur, après un parcours de 6 km sur un sol granitique, il vient buter contre cette paroi calcaire, vous voyez juste derrière, et qui commence à s'enfouir sous terre pour un parcours de 800 mètres avant de donner son nom au Bramabio, qui finira plus tard dans l'océan Atlantique. On ne voyait plus le Bonheur, et justement, pourquoi après ça s'appelle Bramabio? Car en fait, les gens de l'époque, ils n'ont pas fait le rapprochement entre l'eau qui rentrait sous terre à ce niveau-là et celle qui ressortait 800 mètres plus bas. Voilà.
Enfin, on jouait avant la perte. Il était formellement interdit, bien sûr, d'aller se promener dans la perte de Bramabio parce que quand même, c'était de l'aspect du haut et donc c'était toujours mystérieux et très attrayant.
Au bonheur des ténèbres.
Une fantaisie grottologique de Marie-Hélène Bernard et Nathalie Battus.
La première fois que j'y suis descendu, Je commençais à marcher, je devais avoir 3-4 ans. C'est la première fois que je me rappelle les souvenirs. Je devais avoir 11 ans. Et j'ai fait la visite avec le guide et on a discuté. Et petit à petit, j'ai commencé à faire de la spéléo en m'entraînant un peu dans Mramabio, un peu avec le père sur le course. Et de là est partie la grande aventure.
Moi j'ai une lampe de secours.
Moi je prépare mon kit avec le matériel collectif, n'est-ce pas ?
Alors. Grottologie. Les grottes sont de grandes cavités naturelles qui traversent et divisent irrégulièrement en tous sens certaines roches solides de l'écorce terrestre et particulièrement les roches calcaires.
Bon, il y est, ça va.
Les grottes, infiniment curieuses pour le touriste, constituent pour les savants un sujet de recherche du plus haut intérêt. La Höhlenkunde, étude des grottes. La Höhlenforschung, exploration des grottes. La grottologie, si l'on veut bien admettre ce néologisme seul capable de traduire le vocable allemand, est déjà organisée en Autriche. On ne peut que souhaiter de voir l'exemple devenir contagieux.
On y va ? Allez.
T'as vu un petit peu la stratification là ?
Ouais, les vents sont.
C'est régulier, regarde le plafond qui est régulier là.
Ouais, ben on est juste sur une strate là.
Ouais. C'est bizarre, hein ? Ah, c'est chouette, hein ?
Et là, on est dans l'étangère ou dans quoi ? L'étangère.
L'étangère, ouais. Regarde-moi ce travail de l'eau, là. Regarde comme c'est bien ouvragé là.
Il y a eu des nouvelles compressions qui sont apparues.
Ici, le concrétionnement est super rapide. Hein.
C'est vrai, ouais. Et pourquoi il est super rapide ?
Bon, parce qu'il pleut beaucoup à l'extérieur. Et plus il pleut, plus il y a des infiltrations et plus ça favorise le concrétionnement. Ouais. Tout simplement.
Il y a là, il y a une stalactite là, on voit l'eau qui tombe dessus.
Là, nous sommes devant le goutte à goutte créateur, comme on l'appelle.
Concrétion. Nom féminin. Latin, concrétio. Une concrétion est la réunion de différents corps chimiques et physiques qui se solidifient ensemble. Les stalactites des grottes se forment par concrétion. L'eau, chargée de dioxyde de carbone, dissout le calcaire des roches qu'elle traverse et, en arrivant au contact de l'air plus chaud des cavités, elle dépose la calcite transportée. Celle-ci s'accumule en stalactites aux endroits où l'eau se détache du plafond et en stalagmites aux endroits où les gouttes d'eau tombent sur le sol. les concrétions des grottes sont regroupées sous le nom de spéléothèmes.
On venait faire les camps spéléo. C'était la grotte incontournable, donc on faisait la traversée. Ça remonte à 35, 40 ans, bientôt, ça va vite. Hein. Et petit à petit, on l'a découverte ainsi, par camps successifs, donc on a pu faire. Parce que la partie principale, c'est la rivière. Et comme tout spéléologue qui se respecte, c'est la traversée intégrale, bien sûr, de la grotte. On considère d'ailleurs que c'est ici qu'a été fondée la spéléologie en 1888 par Édouard Alfred Martel. Donc il y a eu une carrière extraordinaire au niveau spéléo, alors qu'il était juriste. C'était un avocat parisien. Et en fait, il a consacré toute sa vie donc, au monde souterrain.
Mes deux premières visites, en 1884 et 1885, ne m'avaient pas laissé croire à la possibilité d'une traversée souterraine. L'aspect des lieux concordait trop bien avec les propos des indigènes. Plusieurs personnes, disait-on, avaient déjà tenté la chose sans succès, arrêtées l'une par l'obscurité, l'autre par la violence du courant d'air, celle-ci par le fracas des eaux, celle-là par la verticalité des rochers, toutes en somme par le défaut de matériel ou de vouloir. De nombreux corps flottants jetés dans la vinque ne s'étaient jamais remontrés aux cascades de la sortie. D'infortunés volatiles aquatiques livrés au gouffre n'avaient reparu qu'après de longs jours et sous la forme de quelques plumes éparses. Un suicide même, ajoutait-on, s'était perpétré dans la perte du bonheur et Bramabio n'avait donc rendu le cadavre. Bref, à Camprieux, on tenait pour indéchiffrable l'énigme du torrent souterrain.
Qu'on va dans un territoire inconnu, la moindre petite chose va nous faire frissonner d'envie. On va voir un petit trou qui fait par exemple 10 cm de long, 5 cm d'eau. On va voir si ça aspire, si ça souffle. Ça nous donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Parfois ça va être juste mis un terrier de lapin. Mais non, on veut quand même en avoir le cœur net. À partir du moment où on voit une faille, ça commence à devenir excitant. Et quand on y est dedans, c'est l'apothéose.
Les grottes respirent. Soit elles soufflent, soit elles aspirent. Donc on est toujours à essayer de chercher ce courant d'air, cette respiration. Et parfois on a énormément d'espoir en pensant qu'on va trouver une grotte incroyable. Et puis finalement, il n'y a rien. Et il faut accepter ça et puis voilà, recommencer le week-end suivant.
Lorsqu'on est jeune spéléo, ce qui n'est plus mon cas, on y va à l'aventure et au sport, au côté sportif. Et donc, on avale de la nouille, de la corde, comme on dit. Et puis, petit à petit, on va découvrir autre chose. Mais le but premier en spéléo, c'est la découverte. Alors ainsi, ce sont des journées, des semaines parfois de prospection, que ce soit dans des cavités connues comme ici qu'on va prolonger, ou des cavités qu'on va entièrement découvrir.
On s'enfonce.
On fait de l'alpinisme à l'envers, les spéléos.
Ah, on a certainement la rivière.
À la limite du canyon. Tu vois le plafond? La galerie fait à peu près 50 mètres de hauteur pour 10 mètres de large. On descend de la rivière.
L'attaque fut décidée par le bas. C'est une règle de prudence élémentaire que les rivières souterraines doivent, autant que possible, se remonter et non se descendre. On risque d'être arrêté par les cascades, mais on évite de se trouver irrésistiblement entraîné dans leur volute. Le mercredi 27 juin 1888, à midi, au pied de la deuxième cascade de Bramabio, toute ma troupe était sous les armes. Elle comprenait trois de mes cousins, messieurs Marcel et Gabriel Goupia, ingénieurs, et monsieur Philippe Cheyet, spécialement chargé des croquis d'après nature, plus cinq hommes éprouvés, Foulquet, Émile de Perlot, Causse, Hippolyte, dit Poulard, chef cantonnier à Mérues, Armand, Louis, forgeron au Rosier, Blanc, Claude, de la Chaise-Dieu, contre-maître mineur, et Parguel, maître d'hôtel à Mérues.
Attention Daniel, ça glisse.
Ça glisse.
Ça glisse sur la chemin, ouais.
Hey, oui. Il y a du mouvement dedans,
hein. Attends, lâche pas fort. Je ne passe pas.
Non.
Non. Non, je ne passe pas.
Non, je vais descendre pour un autre endroit, là, c'est pour passer pas.
L'échelle démontable, longue de 6 mètres, est dressée au-delà d'un bassin d'eau, il faut entrer jusqu'au genou, contre la paroi verticale d'où jaillit la deuxième cascade. Blanc, Foulquet et Armand montent seuls à la découverte et s'engagent dans la fissure. Vont-ils pouvoir passer ? Le bruit de l'eau étouffe leur voix dès qu'ils ont disparu, et nous ne savons rien d'eux pendant 20 longues minutes. Soudain, ils reparaissent tout joyeux en haut de l'échelle en criant « Ça va loin !»
Allez, je descends.
Ce que fait en premier le spéléo quand il arrive dans un grand vide, c'est de crier pour l'écho. Et l'écho lui donne une bonne idée de la dimension. Oh ! Oh ! Oh !
Oh ! Ça crie toujours, oui. Même dans les volumes sans rivière, il y a des volumes qui sont gigantesques comme ça, avec l'écho, c'est très difficile. Il faut être vraiment à côté de l'autre pour s'entendre. On entend les pierriers souvent, donc ils glissent. Les pierriers, donc tout le monde le sait, c'est un amoncellement de rochers qui sont tombés des parois, plus ou moins important, et souvent ça arrive que le pierrier se descende de lui-même.
Et Bramabio, c'est le brame des bœufs ?
C'est le brame du bœuf, le biaou, le bœuf, et le brame, donc, c'est le, paraît-il, le bruit que la rivière, ça ressemblait un peu au cri du bœuf.
Et il disait que par forte crue même, on entendait le bruit jusqu'à Merueils.
Les grosses crues, il y a tellement de puissance, de pression de l'eau, qu'on a l'impression que la grotte tremble. Alors qu'elle ne bouge pas, hein, ce n'est plus d'impression. Et là, quand vous voyez ça, vous disparaissez dans vos chaussures. Hein, c'est impressionnant.
Je demanderai au lecteur de se figurer, s'il le peut, dans cette nuit profonde des grottes, assourdie par le fracas des eaux, l'éparpillement de la caravane en quête des moindres fissures, le vacillement des pâles bougies, les appels lointains et les signaux de cornes ou de sifflets, les cordes tendues et les échelles dressées sur les parois abruptes, les silhouettes grandies par l'ombre et profilées sur l'onde bouillonnante, le tout sous des coupoles de 50 mètres de hauteur ou au bout d'avenues longues de 100 mètres.
C'est vrai que le son sous terre est très important, parce qu'on est dans des grandes salles, on s'amuse à faire les échos, on s'amuse... Le plus fantastique, c'est quand la grotte amplifie le bruit de l'eau. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est vrai qu'une grotte avec de la rivière souterraine qui passe, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est une grotte qui vit, c'est extraordinaire. On est là, les spéléologues, on est fou de plaisir, fou de joie quand on entend la rivière. Alors, quand on est en plus dans une caverne qui est fossile au départ, on n'entend pas de bruit. Et lorsqu'on arrive au moment de la découverte, le jour de la découverte, c'est-à-dire on est en première, on est les premiers hommes à pénétrer dans la grotte, et lorsque loin on entend la rivière souterraine et on entend le bruit s'amplifier, que tout d'un coup on arrive dans l'eau, qu'on commence à voir l'eau courir sur le sol, que la galerie s'agrandit, qu'on voit arriver un affluent, deux affluents, trois affluents, et que le bruit s'amplifie, c'est un moment de joie d'une intensité extraordinaire. On se dit, on vit un moment absolument fabuleux.
Bras et jambes en croix, en travers et à plusieurs mètres au-dessus du torrent, où nous nous accrochions des doigts et des pieds à l'une des parois, l'estomac collé au mur, ou bien enfin nous nous laissions choir dans l'eau, parfois jusqu'à la poitrine et de 2 mètres de hauteur.
Pas simplement les jambes, mais les bras aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est en nous. Eh bien, spéléo, il faut savoir que quand on progresse avec les 4 membres, mais aussi les coudes, les genoux, des parties de l'organisme qui, normalement, pour un bipède, ne servent pas. Mais en spéléo, tout sert. Voilà. Même dans les reptations, le ventre, le bas-ventre, le dos, tout sert à progresser. Ce qui fait que c'est effectivement une activité intellectuelle, la spéléo, mais c'est aussi un sport. Mais alors là, un sport plus que complet, puisque toutes les parties du corps sont mises en œuvre pour progresser.
Nous grimpons tous trois l'espace d'environ 15 mètres dans l'espèce de cheminée que nous venons d'apercevoir. C'est un puits, un véritable avinque, dont la bouche est sans doute obstruée, car aucune ouverture correspondante ne se rencontre sur le plateau de Camprieu. L'électricité même ne peut nous montrer la voûte. L'inclinaison approche de 80 degrés. La roche est toute humide et effritée, nos pieds glissent et détachent de petites avalanches de cailloux. Il faut renoncer à cette périlleuse escalade et continuer l'exploration de la rivière. Au bateau.
Emballé en grande partie dans la traversée, Martin, mais ils l'ont laissé au bout d'un moment à la première cascade, parce que c'était trop dur. Et donc finalement, ils ont compris, ils n'avaient pas l'habitude, ils ont compris qu'ils pouvaient déambuler en opposition, même s'ils ne l'avaient jamais pratiqué, c'était spontané, ils ont compris comment il fallait faire. L'opposition, c'est les bras et les jambes de part et d'autre de la paroi, et on avance à 100%, donc on peut avancer jusqu'à 30 mètres de hauteur si l'on veut au-dessus du vide. Si on a toujours trois appuis, on ne tombe pas. Mais bon, c'est quand même une technique qui requiert un petit peu d'attention, sinon on peut se faire très mal. Bon, mais Martel, à cette époque-là, ils ne savaient pas que ça existait, et ils ont innové dans cette technique, et au bout d'un moment, ils se sont aperçus que c'était vraiment plus facile que le canot, et donc ils ont continué avec surprise, et c'est ça qui leur a permis de faire la traversée. Alors qu'au départ, ils pensaient qu'ils n'y arriveraient pas s'il n'y avait pas de canot, s'il n'y avait pas d'échelle, s'il n'y avait pas de matériel pour aider. Mais bon, finalement, de par eux-mêmes, ce que font tous les spéléos de maintenant, mais de par eux-mêmes, ils ont inventé dans les stands ce qu'il fallait faire pour progresser.
Le matériel du grottologue est fort embarrassant. En voici les principaux articles. Téléphone portatif magnétique, système Aubry, construit par Debranville. Chaque poste pèse en tout 400 grammes. Bateau démontable. Le plus pratique est celui d'Osgood en toile imperméable. Corde de gymnastique de 10 à 12 mm de diamètre et échelle de corde. Échelle en fer de 9 mètres de longueur, démontable en 3 morceaux pour l'escalade de parois à pic.
Ah ben, le matériel a beaucoup évolué. En commençant par les vêtements. On est en vêtements semi-étanches, ce sont des combinaisons d'une pièce, qui sont beaucoup plus agréables. Donc lorsqu'on progresse, on n'utilise plus d'échelles, les fameuses échelles électro. Ça c'était le cauchemar quand il fallait remonter des puits de plus de 100 mètres à l'échelle. Et donc on descend sur corde et on remonte sur corde. Donc on va descendre grâce à un descendeur, forcément, et on va remonter sur le système suisse Jumar. Donc vous avez un autobloqueur de poitrine, un autobloqueur à la main avec un étrier dans lequel vous mettiez le pied et par mouvement alterné, on va ainsi remonter sur corde. Si vous fatiguez, vous lâchez tout, vous êtes pendu et vous récupérez, etc. Ici c'est large, là-bas il n'y a pas de souci. Mais quand vous travaillez en étroiture, les passages très très étroits, là le casque est le bienvenu. Et quoique quelquefois, on soit obligé de l'enlever pour passer, tellement c'est étroit.
pour découvrir notre voie, pour sonder la galerie et pour scruter les obstacles ignorés. Un jet rapide de magnésium, troublant pendant quelques secondes de sa lumière presque solaire, le secret jusque-là inviolé de ses abîmes mystérieux. Étrange spectacle en vérité, payant avec usure les peines qu'il coûte.
On utilisait encore l'acétylène il y a quelques années, c'est même récent d'ailleurs, qu'on l'ait abandonné. On est venu maintenant sur le système de LED, avec des autonomies extraordinaires, et une luminosité avec une petite lampe, on va éclairer tout ceci. Mais on va perdre la chaleur de l'acéto, parce qu'on avait ce qu'on appelle dans notre jargon la dudule, dans laquelle concentrer le carbure, avec la réaction chimique avec l'eau, ça chauffe. Et ainsi, on mettait ça dans sa combi, ça nous réchauffait, quoi.
Pile électrique portative. Lampe de mineur ordinaire. Réflecteur à magnésium avec mouvement d'horlogerie. Briquets à amadou pour suppléer aux allumettes devenues humides. Forte bougie stéarique de 3 à 4 cm de diamètre avec grosse mèche. Les bougies ordinaires s'éteignent trop facilement, soit par les mouvements brusques qu'on leur imprime, soit par l'effet des courants d'air.
C'est plus comme au temps de Martel où c'était avec la bougie. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec l'acétylène, les lampes acétylène, celle avec la flamme. Et franchement, comparé à la lumière d'aujourd'hui, qui nous fait voir super bien et tout, je regrette un peu cette chaleur que nous procurait cette lampe. Quand on avait froid, ça nous réchauffe, on trouve des jeux d'ombre, c'est une lumière qui est chaude, c'est deux points de vue complètement différents, on voit les choses de façon complètement différente. On va dire, avec les lampes d'aujourd'hui, on éclaire très large, donc les yeux, il vacille un peu de partout. Tandis qu'avec l'acétylène, on éclaire qu'une petite partie. Donc on va plus s'attacher aux détails. Et c'est encore plus excitant, je trouve.
Les lampes acétylène, le problème, c'est que ça dégage du carbone et le carbone se redépose sur les parois.
Et puis les batteries et les LED consomment moins. On peut avoir une batterie et une LED qui durent plusieurs dizaines d'heures sous terre.
Entre l'ambiance et disons ce que ça provoque de dégâts sous terre, le spéléologue au cours des années a su trancher. Même si actuellement il y a encore quelques réticents qui voudraient garder la lampe acétylène. C'est vrai que c'était bien plus chaud comme lumière, mais la protection du milieu est quand même beaucoup plus importante.
D'un autre côté, les LED évoluent aussi pour avoir des lumières qui sont de plus en plus chaudes, donc on va retrouver le même type de lumière.
Oui, mais tu ne retrouves pas l'effet feu de camp. Il parlait de cette espèce de lumière jaune-orange et qui donne une ambiance de feu de camp, toi, avec les ombres qui bougent un petit peu à cause du feu.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accessoire important?
Toute la quincaillerie, donc mousquetons, les points d'ancrage, déjà ce sont des spits, donc ce sont des petites chevilles qui font 2-3 cm, qu'on plante en paroi et qui reste à demeure, sur laquelle on va visser les plaquettes, dans laquelle on met le mousqueton, et dans le mousqueton, bien sûr, on met la corde.
Petite corne de chasse et sifflets variés pour les appels et les signaux de ralliement. Peau de couleur blanche pour faire des repères et assurer le retour dans les galeries entrecroisées et les carrefours. Burin en fer pour amarrer l'échelle de corde faute de saillie rocheuse. Gros marteau ou masse pour enfoncer les burins dans la roche et pour casser les stalagmites qui obstruent les passages étroits. Pioches et pelles pour déblayer les couloirs obstrués par l'argile. Dynamite et poudre comprimée. La dynamite qui pulvérise tout sur place est préférable à la poudre qui ébranle au loin les masses rocheuses.
Alors ici, on est à mi-chemin de notre rivière. Et c'est donc par là que Martel et ses équipiers donc, ont pu réaliser la première traversée de Bramabio. Alors là, sur la gauche, il y a un tronc d'arbre, donc il est à peu près à notre niveau. C'est tout simplement pour rappeler les niveaux de crue. Donc, eh bien ici en crue, on a la tête dans l'eau, à cet endroit. Alors vous voyez que la rivière est quand même plus de 10 mètres plus bas que nous. On constate ici que c'est relativement étroit. C'est une diaclasse, comme on les appelle, avec au-dessus une conduite forcée, donc, puisque le creusement a commencé là-bas il y a très très longtemps, par une eau qui était beaucoup plus puissante. Et petit à petit, notre rivière s'est enfoncée, ce qu'elle fait toujours.
Pour éviter de crever ou de briser notre léger canot contre les pointes de roc ou les murailles de pierre, il nous fallait tous les deux travailler assidûment de nos mains. L'espace manquait et le flot était trop rapide pour permettre l'usage des avirons. Avec le bâton ferré en guise de gaffe dans les faibles profondeurs, ou simplement avec nos doigts écorchés le long des parois, nous faisions laborieusement et lentement remonter notre nacelle, tandis que le violent souffle d'air entraîné à la surface de l'eau éteignait parfois nos grosses bougies fixées à la proue et à la poupe. Voilà 3 heures que nous luttons contre le courant. Puisque la barque ne peut pousser plus loin, il nous faut retourner. Demain, nous entrerons par le haut et nous sortirons par Bramabio, fallait-il se mettre à la nage.
Mais ici, c'est particulièrement délicat parce que les galeries se ressemblent toutes. Ce qui fait que si on n'est pas spéléo, si on n'a pas repéré à l'avance à quoi ressemblent les galeries, on peut parfaitement se perdre. Donc il ne faut pas, les galeries qui sont à droite, à gauche, il ne faut pas s'y aventurer quand on ne connaît pas parce qu'on arrive dans un labyrinthe inextricable pour qui n'est pas spéléo.
Et là, on arrive par là,
on a des moments de découragement.
Ça arrive, de fatigue aussi. De fatigue intense, et il ne faut surtout pas s'endormir, parce que ce n'est pas toujours évident. Vous allez dormir 3, 4, 5 heures peut-être, tant que vos collègues sont obligés de vous attendre. Personnellement, en 45 ans de spéléo, je l'ai vécu une fois, c'est tout.
Et la peur ?
Est omniprésente. C'est ce qui nous tient en vie d'ailleurs, c'est la peur. Le spéléo qui n'a jamais eu peur,
Et où il n'a jamais fait de spéléo dans sa vie, où il ment, c'est pas difficile. Mais la peur, elle existe, c'est clair. Quand vous devez descendre un puits de plus de 100 mètres, quelquefois, vous mettez le dos dans le vide, vous, dans votre pensée, vous dites, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Et on descend, on va voir, ça continue, ça passe. Il arrive quelquefois, quelqu'un qui ne peut pas négocier une étroiture, des passages très très étroits, là on est en moment de panique. Alors. En général, les aînés sont là pour le sortir de ce mauvais pas.
Moi j'ai très peur, oui, parce que depuis petit j'ai peur du noir. Et en fait, tu y vas, t'as pas l'appréhension, mais t'as toujours un peu le pincement qui te fait frissonner. Et tu fais avec, quoi, parce que tu te régales. Et quand tu sors, que tu vois la lumière, que tu te dis j'ai fait tout ça, il y a une montée d'adrénaline, de fierté et tout, et c'est ça que je recherche quasiment, en plus de la beauté, de la découverte.
Depuis notre entrée sous le tunnel, je n'ai cessé de consulter la boussole, de compter les pas et de manier le crayon qui trace le plan de ces curieuses catacombes. Encore un effort, nous devons toucher au but. Mais que la corniche est mauvaise et que l'eau devient rapide et profonde.
Alors, ce que l'on fait, quand on fait l'investigation d'une grotte, on commence par en faire la topographie. Alors, si on en fait la topographie, le plan de la caverne, ça devient très prégnant dans notre tête. On sait exactement à quoi elle ressemble. Et donc là, presque les yeux fermés, on sait se diriger. Et donc ce plan-là, il n'est pas fait que pour l'usage particulier, privé de celui qui l'a fait. Il est fait pour être communiqué au plus grand nombre, par des publications. Et un spéléo normalement constitué, dès lors qu'il va visiter une grotte qu'il ne connaît pas, il étudie le plan. Parfois, il le prend avec lui. Alors, un spéléo qui sait se diriger, avec le plan, il sait exactement où il va, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est conseillé de le faire dans des réseaux comme Bramabio ou d'autres, où il y a vraiment des labyrinthes.
On va jusqu'au dinosaure, là, on va un peu jusqu'au dinosaure.
Voilà, le sol était là.
Contre-empreinte de dinosaures, c'est une découverte récente, en effet, parce que sur le plateau, le Cos, il y a également, là ce sont des empreintes de dinosaures, hein, qui ont été découvertes il y a quelques années déjà. Il y en a aussi dans la Perte, ce qui veut dire qu'il y a environ 200 millions d'années. Eh bien ici, forcément, il n'y a pas de grotte. Nous sommes en présence d'une mer récifale peu profonde, c'est une mer tropicale. Et là, dans ces mers peu profondes, gambadaient donc ces grands dinosaures, carnivores bien sûr, qui ont laissé leurs empreintes.
Et on sait le nom de ces dinosaures?
C'est la famille des Gralators, oui, ce sont des carnassiers qui devaient peser à peu près 200 à 300 kilos, qui faisaient 2,50 m de haut, et qui bien souvent vivaient en troupeau, si j'en crois les scientifiques, et pourquoi pas. Maintenant, qu'est-ce qu'une contre-empreinte? Et il faut s'imaginer l'animal marcher au-dessus de nous. Et bien entendu, la mer, sur des périodes très longues, va remonter, déposer à nouveau des sédiments qui vont recouvrir donc les empreintes, et ainsi de suite jusqu'au Cos actuel. Par rapport à la contre-empreinte qu'on peut voir ici et la surface, nous avons 30 mètres de calcaire au-dessus de la tête, ce qui représente quand même quelques millions d'années, de dizaines de millions d'années de dépôts sédimentaires. Et donc, et c'est grâce à ces dépôts, en fait, qu'on a pu conserver, comme on peut le constater, donc ces contre-empreintes. Ça, par contre, c'est excessivement rare dans le monde souterrain. Il faut venir à Bramabio pour le voir.
Alors une grotte, elle se creuse,
Ensuite, elle évolue lentement. Il y a des stalactites qui se forment, qui sont le remplissage. Il y a des argiles qui arrivent. Il y a des blocs qui arrivent, qui peuvent être amenés par la rivière. Et la caverne se remplit. Et puis après, se redébouche dans le temps. Autrement dit, pendant plusieurs, peut-être 2-3 millions d'années, la grotte n'est plus utilisée. Et au bout de 2-3 millions d'années, il y a l'eau qui a besoin de passer quelque part. Et elle recreuse dans ses sédiments. En fait, elle réutilise des tuyauteries. Alors, il y a des rivières souterraines où on voit l'eau qui circule dans un sens. Et en observant les parois, on voit des vagues d'érosion, qu'on appelle des coups de gouge, mais qui indiquent qu'à une époque, l'eau a circulé à l'envers. Voilà. Donc, le monde souterrain, eh bien, c'est sans arrêt. C'est une suite d'images qui nous racontent l'histoire de la Terre, en fait. Voilà, qui nous racontent l'histoire de cette région. Je dis toujours que les grottes ont des formes sensuelles. C'est des formes sensuelles, avec des formes bien arrondies et tout. Et c'est magnifique d'avoir ça aussi.
Ouais, donc, c'est vrai que je suis arrivé là aussi.
Voilà un autre aspect de l'eau souterraine. On appelle ça des gours. En fait, c'est de l'eau qui remonte par capillarité et dans certains cas, par les eaux d'infiltration, par le plafond et les parois. C'est de l'eau qui se renouvelle constamment. Et on l'utilise d'ailleurs en spéléo pour la boire. Donc, c'est d'ailleurs dans ces eaux que se développe une partie de la faune cavernicole, les fameux Nypharodus, donc cette petite crevette aveugle.
Alors, disons que la spéléo, je dirais que c'est difficile à définir. Alors, il y a des gens qui font des choses incroyables en spéléo, extrêmement physiques, qui vont dans des gouffres pendant des jours et des jours. Donc là, ça reste du sport très intense, mais c'est aussi une activité de découverte. Parce que vous êtes dans un milieu que vous ne connaissez pas forcément, la grotte, et vous progressez. Donc, il y a réellement ce sentiment de découvrir, de beauté, parce que les grottes révèlent des trésors, mais incroyables. C'est aussi une histoire d'amis, parce qu'il n'y a pas d'ego en spéléo. Vous partez, c'est le groupe qui part, c'est le groupe qui sort de la grotte, et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, et c'est vraiment un groupe de gens très différents d'ailleurs, souvent qui se retrouvent sous terre et qui sont bien ensemble. C'est aussi quelque chose de culturel, parce que ça peut amener à s'intéresser à la géologie, à l'archéologie. D'ailleurs, je pense vraiment que la spéléo ne vous quitte pas. C'est-à-dire que même lorsque vous vieillissez et que physiquement vous pouvez peut-être plus faire des grosses expéditions, vous avez tout ce qui est archéo derrière qui va vous garder dans le milieu des grottes.
Spéléologie vient de spélaion, caverne, et de logis, logo, discours savant. Donc en fait, la spéléologie, on peut la pratiquer autour d'une table en train de manger. En parlant de spéléologie, on fait de la spéléologie, puisque c'est un discours savant sur les grottes, sur les cavernes. La finalité, c'est la grotte. C'est tout ce qui concerne la grotte, la biologie, par exemple, étudier les insectes des cavernes, les animaux qui vivent dans les cavernes, de connaître la flore aussi, parce qu'il peut y avoir un peu de flore aussi sous terre. Puis ensuite, bon, il y a la géomorphologie, qui est l'étude géographique du monde souterrain. C'est une palette gigantesque de connaissances qui reste plus qu'à apporter à l'homme, quoi, en fait. Hein.
Moi, je pense que c'est un petit peu comme les gens. Vous voyez, on a tous des yeux, un nez, une bouche, et pour autant, on ne se ressemble pas. Donc, les cavités sont multiples. Il y en a des toutes petites, magnifiques, des immenses qui vont vous impressionner par le vide, d'autres par la moindre concrétion, et on ne peut pas les classer, en fait. Hein. Chaque grotte apporte son petit plus. Sa personnalité. C'est de l'ordre de l'émotion. Certaines grottes vont vous toucher plus ou moins, selon, comme en fait une œuvre d'art. Hein. C'est très personnel après la beauté de la grotte. Mais ça reste tout le temps magique de voir le travail des gouttes d'eau, ce petit lot de calcite qu'elles apportent patiemment. Et c'est très contemplatif, en fait. On est bien sous terre. On se sent réellement très très bien, donc totalement en sécurité.
Sous terre, je regarde jamais ma montre. Ça sert à rien puisqu'on est hors du temps. Moi, j'oublie tout. Personnellement, j'oublie tout.
Et je regarde l'heure en sortant. Lorsque j'arrive à l'extérieur, je regarde l'heure, je me dis « mince !» Je suis resté, je pensais n'avoir fait que 6 heures sous terre. En réalité, c'est 10 heures.
Vous, des fois, vous allez en solitaire?
Oui, souvent, oui. Oui, on est seul déjà, on se concentre sur ce qu'on fait. On est vraiment, on fait corps avec la grotte. Je veux dire, c'est un moment, on est vraiment, on peut dire, bon, on est en communion avec la grotte. J'aime pas trop ce mot, mais on est vraiment en communion avec la grotte. On est pleinement avec la grotte, on fait attention à ce qui ne nous arrive rien, parce que s'il nous arrive quelque chose sous terre, eh bien on est seul, personne ne vient dans notre secours. Moi je dis toujours, là où je vais, à quelle heure je dois sortir approximativement, hein, puisque je dis toujours une fourchette de 2 heures. Hein. Mais c'est un moment d'une intense communion avec le monde souterrain et en fait on est à fond dans la grotte et il n'y a plus que ça qui compte quoi, en fait. Hein.
C'est réellement une bulle parce que c'est un milieu neutre. Vous voyez, il y a moins de bruit, il n'y a pas d'émotion en fait. Donc vous êtes un peu moi en spéléo, c'est comme si on méditait un peu sans faire exprès en fait. On est posé sous terre et dans un endroit où on est très très serein. Le noir en soi n'est pas quelque chose d'angoissant. C'est tout ce qu'on peut imaginer derrière, qui est caché dans le noir, en fait. Donc, c'est même quelque chose d'extrêmement apaisant. Quand on arrive en spéléo, on le fait très souvent, on éteint les lumières, et vous restez là pendant de longues minutes à écouter la grotte. Il y a absolument, vous risquez absolument rien, et voilà, c'est très, très apaisant.
Et en fait, on s'est rendu compte que les hommes dits préhistoriques, en fait, eh bien, exploraient énormément le monde souterrain. Et quand ils allaient y chercher, eh bien, ils allaient y rechercher plein de choses que nous, actuellement, les spéléologues, on va rechercher. C'est-à-dire, eh bien, déjà, c'est un monde qui est tellement différent de l'extérieur, c'est calme, il y a plein de choses intéressantes à observer. Et ça, à l'époque, les hommes de la préhistoire savaient utiliser ces choses-là, puisqu'on sait qu'il y avait des cérémonies chamaniques sous terre, c'est pas par hasard. Les gens elles dessinent sous terre parce qu'il y avait toute une atmosphère, il y avait les jeux de lumière, il s'éclairait avec des torches, avec des lampes, et en fait ils utilisaient vraiment, c'est un monde fantastique et fantasmagorique aussi en fait, hein. Et en fait on va y rechercher quelque chose qu'on ne trouve pas à l'extérieur, c'est une autre dimension, on est dans une autre dimension.
Soudain je ne puis retenir un cri de joie. Le magnésium vient de nous montrer à 10 mètres de distance deux blocs en travers de la galerie et au-dessous l'effondrement total de la rivière. C'est la cascade du pont, la 6e. Je ne saurais m'y méprendre. Nous allons sortir à Bramabio.
Pour la nuit.
Mais en montant sur la droite, après les contre-empreintes, on avait une galerie qui tombait de là-bas, qui faisait un gros virage. Et bien, c'est en fait par ici que s'écoulait la rivière. Vous êtes dirigé vers le Patilien, la plus grande salle de la grotte qu'on a frappée de trois. Et enfin, loi de ressortir en nombre de secondes. Car bien que le bonheur est lié de trois pertes, donc trois entrées différentes dans la grotte. La théorie, le seul et le simple. La résolution. Voilà. On va comprendre qu'il y allait dans cette salle. On est sans.
C'était Au bonheur des ténèbres de Marie-Hélène Bernard et Nathalie Battus. Avec, par ordre d'apparition, Abraham Abiot, Jean-Louis Galera, François Pessier, Malo Passédon, Charlie Vertonghen, Daniel André et Michel Boutor. La visite guidée était assurée par Basile Brondeau. Merci à Christian Passé, Paul Roiron et aux membres du club Spéléo Arémis. Voix, Suzanne Passé et François Clavier. Texte lu, extrait du livre d'Edouard Alfred Martel, Les Cévennes à la région d'Écosse, paru à la librairie de la Grave en 1893. Musique, Marie-Hélène Bernard. Prise de son, Alain Joubert et Bernard Laniel. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Inès De Bruyne, Alice Ramon et Irène Omelianenko. Au bonheur des ténèbres.
Demain, dans Création en Air, le béton, la lumière et le vent de Christian Rosset et Gaël Gillon. Une exploration de l'installation Sens de Marc-Antoine Mathieu au Life de Saint-Nazaire, un espace dédié à l'art contemporain dans l'alvéole 14 de la base des sous-marins construite par les Allemands entre 1941 et 1943. Et maintenant, sur France Culture, c'est le passage en douceur dans les nuits conçu par Philippe Garbi.